RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time tous les lundis soirs, 21h, 22h, avec la Dream Team, David Cosette, Stephen Brun, Frédéric Vaïs. Ça va les gars?
Très bien.
What's up Pierre?
Vous êtes Bonsoir. En forme?
Ça va nickel.
Pleine forme.
Qu'est-ce qu'on
Pleine
a fait
forme.
Ce week-end?
Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? On a fait plein de choses, on a commenté un pot Asvel, du feu de Dieu, on a fêté l'anniversaire de David Cosette.
Ah, mais c'est ça qui m'intéresse.
Hein? Il a pris ses 49 ans.
49
ans, hier, David Cosette avec une petite bouteille
un
de Jurançon,
petit gueuleton, tranquille.
Avec une petite tranche de foie gras dans le Béarn.
Dans un empile, voilà.
Dans le Béarn.
Dans un empile, je serais pas là. Hein.
C'est-à-dire que vous faites ça en marche du match à peau, quoi, c'est ça?
Après le match, mais on commente et puis
bon.
Après.
Exactement, bravo. On a eu la chance de dîner avec quelques membres du staff de l'Asvel, c'était très sympa.
Alors, ce soir, le programme est magnifique. Qui veut la peau de Zvezdan Mitrovic? On se pose la question, parce qu'on a l'impression que les arbitres sont dans le viseur.
C'est pas qui veut la peau de Roger Rabbit. Hein,
alors, est-ce qu'il est parano de... Est-ce que c'est la réalité? À vous de nous dire, venez en débattre avec nous au 32-16. Laissez vos commentaires sur Twitter. Et puis, on demandera quand même à la patronne des arbitres français si c'est pas ces arbitres qui sont un peu trop sévères avec le pauvre Zvezdan. Et puis, un débat d'esthète dans cette émission ce soir. On va parler de shoot. Messieurs, je sais que toi, Steve, t'étais plutôt à... un bon shooter, on peut dire ça comme ça?
Ah, plus shooter qu'autre chose, oui.
Fred, toi, t'avais pas trop de mal à les mettre non plus?
Oui, moi, j'étais plus près.
Toi, t'es à 20 cm du panier, donc c'est
moi,
facile.
Plus
et David?
Près,
ouais. Et David?
Ah, David, j'ai plus de doutes.
Il doit être malheureux pour être aussi méchant, lui, le grand, là.
Ah, il est très méchant, mais on l'aime bien quand même.
On l'aime bien quand même.
Alors, Stephen Curry est-il le plus grand shooter de l'histoire? Voilà une drôle de question, parce que moi, j'ai toujours entendu que c'était Ray Allen. Voilà.
Stephen Curry? Ah, je pensais Stephen Brun. Non, Stephen Curry, quand même. On va pas exagérer.
Non, Stephen Curry du plateau de Vanves. Le plus grand shooter du plateau de Vanves. C'est déjà pas mal.
On t'a dit, Ray Allen, toi.
Moi, j'ai toujours entendu que Ray Allen, c'était le meilleur shooter de l'histoire. On en débattra tout à l'heure. Et puis dans le 1 contre 1, l'actu du basket français, bien sûr sous forme de quiz. On a quitté un Stephen Brun vexé l'autre jour. On va voir si ça ira mieux ce soir. Il y a du direct également, foot et basket bien évidemment. Hein. On s'intéressera également à Tottenham City, à Lazio Inter et à Brest-Clermont. Le match de JP Elite, c'est Bourg-en-Bresse-Levallois. Mais c'est parti pour Buzzer Time.
RMC Buzzer Time. Les news JP Elite.
Alors l'actu de la JP Elite, ben l'événement c'est la première défaite de l'Asvel, c'était justement à Pau, 82-79, mais c'est de son entraîneur dont on va débattre, qui veut la peau de Zvezdan Mitrovic. Juste avant ça, on va faire le tour de nos directs. J'ai très bien vu que vous êtes tous tournés vers moi quand j'ai prononcé le prénom de Zvezdan. Excusez-moi.
oublie pas le D.
Oh, t'as mis un petit coup de pression là.
Oublie un Z. Genre comment il parle
Zvezdan.
Bon, Zvezdan Mitrovic, on va en parler tout de suite. D'abord le point sur les directs, la Ligue de Brest Clermont, Julien Théier.
18 minutes de jeu à Clermont et ce sont les Brestois qui mènent ici 1-0, un but exceptionnel pour le Stade Brestois, signé JCP, le milieu de terrain qui avait le ballon. Il était collé à une de touche côté gauche, à une vingtaine de mètres des buts, gardé par Mehdi Janin Clermontois, et il a déclenché une frappe somptueuse qui est allée dans la lucarne, premier poteau de Mehdi Janin. Ça fait donc 1-0 pour Brest qui est sur 7 victoires d'affilée et qui pour l'instant mène ici à Clermont après 18 minutes, 1-0.
On suit également l'affiche de Première Ligue entre Tottenham et Manchester City avec Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut Pierre, bonsoir à tous. C'est parti depuis 3 minutes à Wembley. Toujours pas de but entre Tottenham et Manchester City dans cette affiche de la 10e journée de Première Ligue. Entre le 5e et le 3e de Première Ligue. Et on le rappelle, en cas de succès, Manchester City pourrait repasser devant Liverpool en tête du classement.
Et puis la Lazio, adversaire de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa, accueille l'Inter Milan en Serie A. Simone Rovera. Salut Simone. On l'a pas, il est pas là.
Simone.
Tu veux faire l'accent italien, vas-y.
Simone, c'est quoi le match?
Lazio Inter Milan.
La Lazio fait un bon début de match.
C'est très très mauvais. C'est très mauvais. On enchaîne très vite sur l'actu pro A. Donc l'Asvel et son coach Zvezdan Mitrovic. Alors pourquoi parler de Mitrovic? Il a été expulsé pour 2 fautes techniques très rapidement dans le match face à Pau et lui s'estime victime d'injustice. Alors déjà Steve, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il a été expulsé?
Alors il prend une première faute technique pour contestation sur une faute non sifflée sur un drive, un accès au cercle de Charles Gayou, donc il prend une technique parce qu'il protège. Faut savoir que depuis le début du match, hein, dès la première minute, il était un petit peu chaud. Et puis après cette première technique, il continue à parler aux arbitres et puis il fait un geste de la main, ce fameux geste qui veut dire et donc la deuxième tombe et puis deux techniques et ben c'est expulsion. Il restait 3 minutes à jouer en première mi-temps, donc c'est tôt quand même dans un match pour se faire expulser.
Alors lui, il estime qu'il est presque victime d'une cabale.
En tout cas, il est coutumier du fait.
Déjà à Monaco,
ça se passait très mal. Sur la finale, il a été.
Il y a 2 ans, il a expulsé à Pau aussi.
Ouais, mais sur la finale de l'année dernière, oui. En plus de, il a pas forcément été expulsé, mais il a critiqué l'arbitrage pendant toute la finale. C'était un peu compliqué. Sa relation avec l'arbitrage est pour le moins complexe.
Alors lui, son argument, c'est que quand il est arbitré en Coupe d'Europe, tout se passe bien. David, il y a un problème en France ou quoi?
Ce qui est sûr, c'est qu'il est ciblé.
Ça, t'en es certain?
Ouais, je pense. Quand on connaît le mode de fonctionnement des arbitres, puisque aussi ils ont leur orgueil, tout ça, je pense sincèrement que Mitrovic, il est ciblé. Mais Mitrovic, il a aussi des attitudes. Quand d'autres coachs se font reprendre pour des fautes techniques, derrière, ils mouffent pas. Ou alors, c'est que vraiment, ils en ont marre du match, ils veulent aller au vestiaire, donc ils continuent. Et lui, à chaque fois qu'il se fait reprendre, il va continuer.
Ça dépend de l'arbitre. J'ai l'impression qu'il y a des arbitres qui respectent, et dans ce cas-là, il est un peu plus sur la réserve.
Ouais.
Si tu lui mets un soufflif, il va tester les limites de l'arbitre.
Voilà, exactement. À chaque fois, il va tester les limites, et ça va
être très loin. Donc, c'est un peu de sa faute, quand même.
Forcément. Il a pas les mêmes sanctions en Coupe d'Europe qu'en JP Elite. Mais je crois j'en suis sûr, il a pas les mêmes attitudes aussi avec les arbitres de Coupe d'Europe qu'avec les arbitres de JP Elite.
Comme dans tous les conflits, je dirais tort partagé.
Après, je sais pas si ma question est idiote, mais ça peut pas être aussi.
On va te dire, hein.
Parce que c'est l'ASVEL qui est un peu l'épouvantail du championnat.
Non, il a la même chose à Monaco. Justement, lui, il est targué.
Ah, idiote la question.
Il se targuait de dire c'est à cause du fait que je sois à Monaco comme arbitre aussi mal. Maintenant, il est à l'ASVEL, il va dire c'est à cause du fait que je sois à l'ASVEL.
C'est de sa faute, quoi.
Non, mais pas que. Et effectivement, je rejoins David, il est ciblé. Après, tout simplement parce que les arbitres, à la fin de chaque semaine, ils ont un compte-rendu avec le chef des arbitres qui leur dit « on a encore eu un problème avec Mitrovic ». Et à force d'en parler...
Et les arbitres, leur truc, c'est... ils nieront toujours, mais c'est vrai. Ils se disent « c'est nous les patrons du match ». Donc ils ne supporteront rien d'insubordination. Et donc forcément, s'il y a un coach qui est connu pour ça, ils vont prendre plaisir à le...
Ils vont essayer de le calmer d'entrée par une technique.
Quand t'es arbitre et que t'es désigné pour arbitrer Zvezda Mitrovic, et tu connais les antécédents,
Bah t'as un a priori au départ, forcément.
A priori, tu l'as dès le départ, alors t'essaies de faire abstraction, mais tu vas peut-être plus le regarder qu'un autre coach. Par exemple, si t'aimes pas une personne dans la vie de tous les jours, le moindre mot qu'elle va prononcer, ça va t'agacer.
Exact.
C'est un peu le cas avec les arbitres, Zvezda Mitrovic.
Est-ce que ça leur a porté préjudice contre Pau, David, de jouer sans coach pendant plus d'une mi-temps?
Non, parce que ce match-là, je pense que c'est pas qu'ils s'en foutaient, mais c'était pas leur priorité du moment. Leur priorité du moment, ça va être le match-là de cette semaine, demain ou après-demain? Contre Zenit Saint-Pétersbourg, et tout dans les attitudes des joueurs, du coach, du staff, laisser penser qu'ils sont arrivés vraiment avec les mains hautes du guidon. Et cette série d'invincibilité, on se demandait au final si c'était même peut-être pas plus gênant qu'autre chose dans le cadre de la dynamique d'équipe. Et que donc, alors on va pas aller jusqu'à dire qu'il a fait exprès de perdre, que Mitrovic a fait exprès de se faire expulser. Mais franchement, voilà. D'ailleurs, ils ont pas fait jouer Charles Cahudi, qui aurait pu jouer. Parce que c'est vrai que les matchs s'enchaînent, il fallait le préserver, etc. Donc il y avait quand même beaucoup d'indices qui nous laissent penser que finalement, tout ça n'est peut-être pas bien.
Alors on va poser toutes ces questions à Chantal Julien, la patronne des arbitres de la JP Elite. Mais d'abord, le point sur les directs. Il y a pour l'instant un score très serré entre Bourg et Levallois. 20 partout, pardon. Dans le deuxième quart-temps, début du deuxième quart-temps. Et puis le foot, il y a eu des buts à peu près partout, notamment en Ligue 2 entre Clermont et Brest. Julien Théier.
Ouais, 24 minutes de jeu à Clermont sous la pluie et déjà 2-0 pour Brest, l'actuel troisième du classement de Ligue 2 qui mène 2-0 à Clermont. Premier but signé Jesse Pied à la 15e et second but signé Mathias Autré à la 20e minute de jeu. Une action plutôt bien construite de la part des Brestois. C'est parti côté droit avec un centre en retrait de Belot, la petite déviation de Gaëtan Charbonnier et la frappe de Mathias Autré. Le meneur de jeu dévié par Julien Laporte, le défenseur central de Clermont, qui prend à contre-pied son gardien Mehdi Jeannin. Ça fait 2-0 pour Brest ici à Clermont après même pas 25 minutes.
Tottenham City, ça a bougé également. Arthur Perrault en
avec
première ligne.
Ouverture du score de Manchester City dès la 5e minute de jeu ici à Wembley après un débordement incroyable de Raheem Sterling sur le côté gauche. Et c'est Riyad Mahrez qui ouvre le score pour les Citizens. C'est le 4e but depuis le début de la saison pour le natif de Sarcelles. Donc après 9 minutes de jeu à Wembley, Manchester City qui mène 1-0 face à Tottenham.
Et puis l'Inter mène sur la pelouse de la Lazio. C'est Icardi qui a ouvert le score.
Simone, il est plus là, Simone.
Veut la peau de Zvezdan Mitrovic. On va accueillir tout de suite Chantal Julien, la patronne des arbitres de l'élite. Bonsoir Chantal.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous avez certainement écouté nos premiers échanges. Juste une question simple. Est-ce que Zvezdan Mitrovic, c'est un sujet pour vous? Est-ce que vous en parlez dans vos réunions, dans vos stages de pré-saison, par exemple?
Pas du tout. Pas du tout. On parle des coachs en général, on parle jamais de Mitrovic.
Et alors, est-ce que ce que décrivait tout à l'heure David peut être la réalité, à savoir que quelqu'un, en raison de son passif, en raison de son attitude aussi, et en raison lui-même de ses torts, parce que il en a des torts vis-à-vis des arbitres, ça peut faire que les arbitres sont moins indulgents avec Mitrovic?
Alors, moi, je pense que non, pas du tout. C'est une idée, je pense, qu'on se fait par rapport à ça. C'est que les arbitres ont des consignes par rapport à des attitudes et des non-respects de certains coachs. Mais ça, on parle de coach en général, on parle pas de Mitrovic. Et je sais pas pourquoi il y a cette idée d'anti-Mitrovic, comme on entend. Il y a beaucoup de coachs en JPL qui sont difficiles à gérer pour les arbitres. Et il n'y a pas que Mitrovic. Et il se trouve que c'est vrai que Mitrovic, quand il a une attitude un petit peu agressive et qu'il reçoit une première faute technique, c'est un des seuls à ne pas s'arrêter.
Et ça vous énerve quand lui-même sous-entend qu'il est ciblé par les arbitres?
Bah, il n'est pas ciblé, c'est l'attitude d'un coach est forcément contrôlée par les arbitres. Donc dès le départ, je sais pas, pour reparler du match d'hier, dès le départ, il a été agressif dès le départ vers les arbitres, il a été averti en premier carton. Ce qui est tôt dans un match, mais si le coach décide d'être averti en première mi-temps, c'est son choix. Donc les arbitres ont fait le boulot de l'avertir et donc il a recommencé en deuxième carton. Donc au moment où il prend la première faute technique, avec un geste clairement irrespectueux envers l'arbitre qui est sanctionnable immédiatement et qui a été sanctionné par l'arbitre. Et 30 secondes après, il continue à insulter l'arbitre. Donc, s'il veut pas s'arrêter, l'arbitre a fait le boulot.
Chantal Julien, la patronne des arbitres de la Jeep Elite, est-ce que j'ai l'impression que tu as une question à lui poser qui te brûle les lèvres, David?
Ah non, pas du tout. Non, mais en plus, je comprends. Salut Chantal. Bien sûr que ça ne doit pas être un sujet quand il prépare la saison, etc. Mais on sait très bien que quand un arbitre va sur un match, il aura en tête qui sont les acteurs qui peuvent peut-être lui poser des soucis d'attitude, que ce soit des joueurs ou des coachs. Et d'ailleurs, serait terrible que l'arbitre n'ait pas ça en tête, parce que c'est une façon de préparer son match. Et quand un arbitre va coacher l'année dernière Monaco et maintenant Villeurbanne, il sait dans sa tête, ah, c'est Mitrovic, je peux peut-être avoir des soucis. Et donc, forcément, quelque part, ça veut dire qu'il est ciblé, parce que l'arbitre, il va quand même guetter, voir s'il lui fait pas, alors pas juste un doigt d'honneur, mais n'importe quel geste. Voilà, irrévérencieux, c'est ça le mot.
À ce moment-là, ça veut dire que beaucoup de coachs et beaucoup de joueurs sont ciblés. Alors, parce que les arbitres font du scouting de leurs équipes, ils doivent arbitrer. Ils se voient, ils ont un entretien, un briefing, ce qu'on appelle le briefing d'avant-match à l'hôtel avant chacun des matchs. Et chacun expose les difficultés qu'ils peuvent peut-être avoir avec les acteurs du match.
Bien sûr, on connaît les joueurs et les arbitres qui peuvent.
Ils en parlent certainement, mais ils parlent aussi des autres.
Moi, je suis Chantal, j'ai juste une question. Ouais. Bonsoir.
Ouais.
Qu'est-ce que tu vas mettre sur ton compte rendu du week-end là? Tu vas dire encore une fois les débordements de.
Je vais juste donner l'information que Mitrovic a eu deux fautes techniques et a été disqualifié puisqu'il est sorti sans encombre et qu'il n'y a pas eu plus de soucis que ça. Mais il faut juste que les arbitres soient au courant pour le week-end d'après que Mitrovic a été disqualifié.
Steve,
Chantal, comment
il n'y aura rien de plus.
Chantal, comment tu expliques que en Eurocup et la saison dernière en BCL, Zvezdan Mitrovic est beaucoup moins sanctionné qu'en Jeep Elite?
Parce qu'il n'a pas la même attitude.
Ah, déjà, il n'a pas la même attitude vestimentaire, parce qu'il s'habille mieux en Eurocup, il met un vrai costume alors qu'en championnat. Donc ça veut dire que lui aussi, il est différent.
Est-ce que toi, tu penses qu'il a une basse estime de l'arbitrage en France et qu'il a plus de respect pour l'arbitrage européen?
C'est pas un respect, c'est une attitude, parce que je sais que l'année dernière, je peux en parler, parce que j'étais technique délégué sur tous les matchs de BCL à Monaco, donc j'étais à la table de marque, et quand il parlait aux arbitres, d'abord il leur parlait des fois dans leur langue, parce que c'était des Serbes ou des Croates, des gens de... Voilà, donc ils parlaient de façon différente, et dès qu'il y avait un geste de travers, il était averti une fois, et il ne bronchait plus.
Stephen Brun.
Chose qui ne fait pas Andy Pellit.
L'homme quand même qui respectait personne, pas plus son propre entraîneur que les arbitres, qui fait un débat sur l'arbitrage, c'est quand même beau le buzzer time.
Alors
un dernier mot.
Moi je voudrais juste élargir un tout petit peu le débat avec Chantal, juste histoire d'être un tout petit peu taquin. Moi je suis d'accord avec toi Chantal sur le fait que Zvezdan Mitrovic a peut-être pas forcément la même attitude selon qu'il est face à lui un arbitre numéro 1 ou un arbitre entre guillemets subalterne et selon qu'ils sont en Coupe d'Europe ou en championnat. Mais je sais aussi que pour les arbitres, c'est différent selon qui ils ont en face. Moi par exemple, Jelko Obradovic, moi je l'ai vu mettre des mines à tout le monde, dépasser sa zone, rentrer sur le terrain. Je l'ai jamais vu prendre une faute technique de sa vie parce que la rumeur circule que c'est entre guillemets quelque part lui le patron des arbitres en Europe.
Oui, enfin ça c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que la pression quand les arbitres arbitrent un Obradovic est difficile.
C'est plus dur hein, de lancer le coup de sifflet contre Obradovic quand même. Hein.
Non, c'est plus dur. Ça,
vous n'êtes pas sûr de sortir de la salle.
Jeune arbitre, alors je vais rebondir là-dessus. C'est quand on est un jeune arbitre, parce que je suis passé par là. Quand on a des coachs de renom, comme les Mitrovic et comme le sont d'autres en France, il y en a d'autres qui sont pas faciles à gérer.
Bien
qui
sûr.
Sont très bons coachs, mais qui ont des comportements qui sont pas faciles à gérer. Forcément, c'est plus facile. Enfin, les arbitres expérimentés arrivent mieux à contrôler ce type de coach que les jeunes qui arrivent.
Chantal forcément. Julien, la patronne des arbitres de la Jeep Elite, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Buzzer Time en direct et d'évoquer le cas Zvezdan Mitrovic qui lui s'estime un peu victime d'une sorte de cabale de la part des arbitres. Merci beaucoup, ça n'empêche pas l'ASVEL d'être le leader de la Jeep Elite. Alors, on va jeter un œil sur le match en cours entre Bourg-en-Bresse et Levallois. On est dans une première mi-temps très serrée, il y a 2 points d'écart et peut-être bientôt plus puisque les Levalloisiens ont 2 lancers pour revenir à 29 partout à la moitié du deuxième quart. Les matchs de foot, 2-0 pour Brest sur la pelouse de Clermont. City mène à Tottenham 1-0 et l'Inter mène 1-0 à la Lazio et domine très nettement cette partie. Et puis l'info foot de la soirée, Rulen Lopetegui n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Vous aurez toutes les infos, les détails.
Quelle surprise!
Et les débats qui vont avec d'ici 45 minutes dans l'after sur RMC. La NBA, on arrive tout de suite avec le shoot de Stephen Curry qu'on va décrypter. Est-ce que c'est le meilleur shooter de l'histoire? À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time tous les lundis soirs 21h, 22h, c'est votre rendez-vous basket avec la Dream Team, Fred Weiss, Stephen Brun et David Cosette. Le match en cours Bourg-en-Bresse, Levallois toujours aussi serré à 3,38 de la mi-temps, plus 2 pour Levallois, donc sur le parquet de Bourg. Les matchs de foot, le temps, le score en Ligue de Clermont-Brest, Julien Théier.
35e minute de jeu à Clermont et ce sont les Brestois qui mènent ici 2-0.
La première Ligue Tottenham, Manchester City, Arthur Perrault.
19e minute de jeu à Wembley, toujours 1-0 pour Manchester City face à Tottenham grâce à un but dès la 5e de Riyad Mahrez.
Et l'Inter qui a ajouté un 2e but sur la pelouse de la Lazio juste avant la mi-temps, ça fait 2-0. Icardi, Brozovic, la NBA tout de suite.
RMC Buzzer Time. Buzzer Time.
Les news NBA. Je rappelle que dans 10 minutes, on évoque toute l'actu du basket français dans le 1 contre 1. Et ensuite, il faut bien rester avec nous jusqu'à 22h, puisque vous entendrez en exclusivité sur RMC Bria Hartley, l'américaine qui a choisi le maillot bleu. Mais d'abord, je vous ai promis donc un débat d'esthète. On va parler des meilleurs shooters de l'histoire, parce que Stephen Curry affole les compteurs. Alors, il a les stats en NBA, parfois, c'est presque saoulant, tellement il y en a. On sait plus ce que ça veut dire, etc. Là, pour le coup, je pense que c'est une vraie signification. Il est le premier joueur à inscrire au moins 5 paniers à 3 points dans 7 matchs consécutifs de NBA. Tu hausses les épaules, David.
Ouais, non, mais
tu
on
sais
peut...
qui l'a battu? Qui était le détenteur du record précédemment?
Ah, j'aurais justement dit Ray Allen, mais ça ne peut pas être lui.
George McLeod. Ouais.
George McLeod, celui qui jouait dans Retour vers le futur.
Celui
qui a bossé avec Steve Jobs. Alors, autre stade de folie, sur le début de saison, il est à 46 paniers à 3 points sur 89 tentatives. Déjà, le pourcentage est hallucinant, au-dessus de 50%. Et il fait mieux que l'ensemble des Nuggets, du Thunder et des Cavs. C'est quand même assez fantastique. Hein. Même si, évidemment, Golden State domine, mais faut
toujours les battre. Écoute bien cette stat, hein, Piron.
Bah, c'est assez représentatif, je trouve, quand même.
Après, chacun a sa façon de fonctionner, Pierre, mais moi, c'est pas des chiffres, c'est comme quand on dit qui est le meilleur joueur de tous les temps, est-ce que c'est Michael Jordan ou LeBron James? Si, ça m'impressionne, et je vais te répondre. Pour moi, oui, c'est Stephen Curry, le meilleur shooter de l'histoire. Mais c'est par rapport à des images, et c'est par rapport à l'imaginaire collectif. Comme moi, je pense que Jordan restera pour à jamais le plus grand parce que c'est des images qui m'ont marqué, puis parce qu'il y avait une forme de grâce. Et ben pour Stephen Curry, c'est en quelque sorte la même chose. C'est pas le fait qu'il ait une régularité avec des chiffres à mettre tant de paniers à trois points de suite chaque jour, etc. C'est des paniers. Si, bien sûr.
Jordan, il y a une subjectivité. Alors que là, les chiffres te prouve que c'est lui meilleur.
Oui, enfin, la subjectivité, elle est relative avec Jordan oui, quand il a été champion, qu'il était
etc. Il y a le bon, il y a une discussion, moi.
Oui, j'entends.
Alors qu'avec des chiffres, c'est difficile d'avoir des discussions.
Alors, moi, ce que je veux dire par là, c'est que, quand je parle de l'image et puis du fantasme ou de l'imaginaire collectif, c'est que Stephen Curry, on a tous en tête des images de paniers incroyables qu'il va prendre à 10 mètres, parfois 12 mètres, etc. Ce genre de choses avec une vraie réussite. Alors que, voilà, pour prendre d'autres, Ray Allen, je dirais que c'est une machine, entre guillemets, évidemment. C'était un mec qui avait une adresse extraordinaire, avec un pourcentage, tu savais que quand tu le mettais en position, il allait démettre. Mais j'ai pas ces images de Ray Allen qui marquaient à 10 mètres, etc. Moi, j'ai été élevé avec Reggie Miller, que pour moi, c'était le plus grand shooter, etc.
Après, juste, avant de donner la parole au pragmatique Fred Weiss face au romantique David Cosette, le shooter de l'émission, Steve, est-ce que tu peux déjà essayer de circonscrire le débat? C'est quoi un bon shooter? C'est un shooter qui met dedans,
un bon shooter,
ou c'est un shooter qui a un shoot pur, non, une technique
le mauvais
parfaite.
Chasseur mauvais,
un bon shooter, c'est un mec qui prend beaucoup de tirs à trois points et qui met dedans. Tu peux prendre énormément de tirs.
Tu
peux shooter comme un cochon.
Si tu mets dedans, c'est bon.
Oui, exactement. C'est pas forcément la mécanique du tir. Hein. On a vu Ray Allen, sa montée de balle à Ray Allen, elle est beaucoup moins pure que celle de Steph Curry, mais c'est un mec qui filoche aussi. Larry Bird, qui était un grand tireur aussi, il tirait derrière la tête. Son geste n'était pas du tout académique. Steph Curry, je crois qu'il a l'alliage des deux. Son geste est beau. Je vais ramener ça au tennis, mais un coup droit ou un revers de Federer, c'est le mec qui a inventé le tennis, et ben c'est cette technique-là. Le mec James Naismith, peut-être quand il a inventé le tir, Steph Curry là, la rotation du ballon est belle. Et là où Steph Curry, David disait, il met des tirs de légende à 10 mètres. Le problème, c'est que c'est devenu son quotidien pour lui. Ces tirs à 10 mètres,
c'est pas lui qui a le pourcentage. Il y a pas quelque chose qui est sorti comme quoi c'est un pourcentage élevé sur ces shoots-là.
Sur ces grands tirs-là, c'est à chaque match, il prend des tirs. C'est devenu une banalité pour lui. Ces tirs à 9, 10, 11 mètres.
Dès
qu'il passe le milieu de terrain, ça devient un danger permanent pour la défense. Et c'est pour ça que moi je suis d'accord pour dire que c'est le meilleur shooter qu'on ait jamais vu. Au-delà des stats, au-delà des chiffres, au-delà des performances, la pureté et cette faculté à chaque match à performer sur des tirs hors normes, avec défense ou sans défenseur, loin ou derrière la ligne, fait de lui le meilleur tireur de l'histoire de la NBA.
Les chiffres parlent aussi, Fred.
Mais pour moi, les chiffres parlent plus dans cette histoire-là, parce que quand on parle de Michael Jordan, encore une fois, je reviens à ce thème-là. On peut dire que c'est le meilleur joueur, on peut dire que c'est LeBron James, on peut dire que c'est un tel et un tel. Ça se discute, parce que c'est subjectif. Sauf que lui, il est déjà sixième meilleur marqueur de l'histoire à trois points. Et devant lui, il a, en numéro 2, avec 2560 shoots, Reggie Miller. Et juste devant, Ray Allen. Sauf que Ray Allen est à moins 3000 shoots. Sachant qu'en 2015 et 2016, il en a marqué 402 et qu'il n'a que 30 ans.
Ça va aller très vite.
Ça peut aller très vite. Et donc dans ce cas-là, à partir du moment où il a marqué le plus de shoots à trois points, c'est le meilleur shooter.
Moi, j'ai pas fait maths P, j'ai rien compris.
Mais c'est tout simple. Il te dit qu'il va, dans deux, trois saisons, il sera le premier.
Et à partir du moment où il sera premier au nombre de shoots à trois pas marqués, c'est le meilleur shooter.
Il y aura shooter. Plus de débat, en fait.
Il y aura plus de débat. C'est un joueur qui bat ses propres records d'année en année. Il est passé à 300 tirs à trois points inscrits sur une saison. L'année d'après, il est à 390. L'année d'après, il a mis plus de 400 tirs à trois points. Chaque année, il va battre ses propres records à Steph Curry.
Et est-ce qu'on considère aussi l'importance du shoot ou pas dans ce débat? C'est-à-dire que, en plus de ça.
Clutch, savoir si c'est pour faire le game ou pas.
Exactement. Et en plus de ça, il a des titres. Et plus que Reggie Miller et Ray Allen réunis, je suppose.
Ah, c'est sûr qu'il serait dans une équipe de baltringues, il serait moins d'impact.
Voilà.
Ah, il mettrait des filoches quand même.
Bien sûr. Oui, mais ça a moins de valeur.
C'est moins important.
Moins de valeur. Comme un scoreur qui va mettre 30 points par match dans une équipe de chèvres, parce qu'il aura tous les ballons. Ouais, voilà, c'est pas la même chose.
Tout le monde dirait, qu'est-ce qu'il ferait dans une grande équipe?
Exactement. Alors que là, il est dans une grande équipe.
Là, pour valider vos propos, un garçon comme Devin Booker des Suns de Phoenix, qui est aussi un formidable shooter, qui joue aux Suns de Phoenix, ses performances, se passent un petit peu au travers, parce que son équipe gagne pas un match.
Il a mis quoi? 80 points la saison dernière?
70
sur un match, mais bon.
Alors après, évidemment, on n'a parlé que des trois points. On considère pas aussi le shoot simple à mi-distance. Ça compte pas, ça.
Il y en a très peu.
Parce que
il y en a
tout à l'heure,
dans le basket moderne, le shoot à mi-distance n'existe quasiment plus. Hein. Mais surtout pour un meneur. En fait, c'est soit en pénétration, soit en shoot à trois points.
C'est le tir qui a le plus mauvais pourcentage en NBA, dans le basket en général. Le tir à deux points dans le petit périmètre. Les coachs aujourd'hui insistent sur deux points dans la raquette par les grands ou tir à trois points. Le tir à deux points dans le petit périmètre, c'est celui où il y a le moins de pourcentage le plus bas, et donc il est inintéressant.
Ok, donc ça règle.
Tu vas prendre que quand vraiment t'es complètement ouvert par hasard parce que ton mec est, s'est barré, je sais pas où.
Ou des joueurs que tu maîtrises, ou des joueurs que tu maîtrises, Kevin Durant dans le petit périmètre.
Et alors dernière chose, est-ce que l'émergence d'un joueur comme Curry qui en appellera peut-être d'autres, c'est-à-dire des mecs capables de shooter très régulièrement et très facilement à 9-10 mètres, est-ce que ça pose la question d'une ligne à 4 points par exemple?
Une ligne à 4 points, je sais pas, mais moi je serais pour reculer la ligne à 3 points pour qu'on retrouve cette diversité de ouais, vrais postes de jeu.
C'est quand même un joueur exceptionnel. Curry, on n'a pas 50 000
Curry. Oui, non, mais je veux dire Fred, là.
Oui, mais il y a d'autres intérieurs qui sont capables de marquer régulièrement à 3 points,
ça
dévalorise.
Ça a perdu sa saveur, parce que maintenant, tout le monde peut tirer à 3 points. Donc, si tu reclines à 3 points, moi, je suis pour qu'on retrouve des pivots qui soient vraiment des pivots et des joueurs extérieurs qui soient vraiment des joueurs extérieurs. Parce que là, tout le monde, les grands 2m16, maintenant, ils passent leur temps derrière la ligne à 7-23.
Et celui qui saura tout faire, sera justement un mec extraordinaire et il sera unique. Mais je suis d'accord.
Mais ça répond pas à la question. Vous êtes pour ou pas une ligne?
Le recul de ligne à 3 points. Oui, ouais. Une ligne à 4 points.
Recul de ligne à 3 points.
Oui, ligne à 4 points, ça engendre beaucoup de choses, trop de choses. Il faut changer les dimensions du terrain. Il faut
recul de la ligne à 3 points, ça changerait énormément la tactique quand même, non?
Déjà, il y aurait
plus d'espace.
Les défenseurs devraient être plus haut, il y aurait beaucoup plus d'espace, plus de spectacle. Et la NBA est une ligne où ils veulent du spectacle.
Parce qu'il y aurait beaucoup
plus d'espace.
Il y aurait plus de shoot raté aussi.
Mais il y aurait des mecs qui tenteraient des shoots à 4 points, qui feraient des gros airs.
Non, on parle de reculer la ligne à 3 points.
Ouais, si tu recules la ligne à 3 points de la même façon.
Oui, de la même façon. Oui.
Ça libère de l'espace.
C'est un danger, quoi.
Non, c'est
obligé de sortir.
Juste le temps de l'adaptation, parce qu'après, au bout d'un moment, les mecs, s'ils continuent à faire des briques, ils vont plus jamais jouer. Donc, voilà.
En France, on l'a reculé il y a 7-8 ans. Au début, c'était maintenant, tout le monde.
Moi, la ligne à 4 points, j'en veux pas du tout, parce que j'ai pas envie que ce soit encore plus compliqué pour le grand public et que le terrain de basket, ça devienne comme une cible quand tu vas jouer aux fléchettes où tu vas voir 2 points, 3 points, 4 points. Après, ce sera quoi? 5 points, parce que les gens.
Après, tu pourrais.
Tu pourrais
plus
de limite après.
Tu pourrais plus sur un mec qui met un buzzer à 4 points alors que son équipe est à moins 3.
Bien, messieurs,
c'est vrai.
J'en doutais encore jusqu'au début de cette émission, mais vous l'avez prouvé, vous êtes de vrais esthètes. Même si j'ai un tout petit regret sur ce débat, c'est que vous étiez à peu près tous d'accord finalement. Stephen Curry, je ne pensais pas qu'il ferait autant l'unanimité.
Ouais. Ouais, quand même. Juste, quel nom on peut lui opposer?
Ray Allen, Reggie Miller.
Ouais.
On en restera là pour le moment. L'actu du basket français, le 1 contre 1, ça arrive tout de suite. D'abord le tour des directs, la Ligue de Clermont-Brest, Julien Théier.
44 minutes à Clermont et toujours 7 avantages pour les Brestois qui mènent 2-0. Début signé JCP, 15e minute, et Mathias Autré, 20e minute.
Tottenham Manchester City, Arthur Perrault en première ligue.
29e minute de jeu à Wembley, toujours 1-0 pour Manchester City face à Tottenham. On rappelle le buteur, Riyad Mahrez à la 5e minute de jeu, Pierre.
La mi-temps entre la Lazio et l'Inter, 2-0 pour l'Inter Milan, Icardi, Brozovic, et puis la mi-temps également en Jeep Elite, Bourg-en-Bresse, Levallois. C'est Levallois qui mène plus 3 à la mi-temps, 39-36. Le 1 contre 1, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time, tous les lundis soirs, 21h, 22h. Dans un quart d'heure, vous entendrez Bria Hartley, l'américaine qui représentera la France désormais au niveau international. Interview exclusive signée Cyril Méjean. D'abord, la Ligue 2, ça a bougé sur le match entre Clermont et Brest. Julien Théier, salut Julien.
Ouais, ça a bougé juste avant la pause avec la réduction de l'écart au score par les Clermontois qui marquent par Florian Haye, leur meilleur buteur, 5e but de la saison pour Florian Haye. Une action qui est déclenchée par Franck Honora qui décale dans la surface de réparation Jonathan Iglesias, l'Uruguayen qui frappe sur la transversale. Ça revient dans les pieds d'Haye qui était au deuxième poteau. Et Haye, petit plat du pied entre les jambes du défenseur. Ça fait donc 2-1 pour Brest ici à Clermont la mi-temps.
Julien Théier, donc le match entre Clermont et Brest. C'est parti pour le 1 contre 1.
RMC Buzzer Time. Buzzer Time. Le 1 contre 1. Contre 1. Contre 1.
Alors on aurait pu appeler ça la revanche, ou je sais pas comment il faut dire ça, la rédemption. Il est parti tellement de mauvaise humeur, le pauvre Stephen, la semaine dernière. T'étais imbuvable, mais on a eu de la peine pour toi. T'as perdu pour la première fois dans cette configuration à 3 entre David, Fred et toi. On décrypte toute l'actu du basket français sous forme de quiz. C'est parti, messieurs. Première question, la semaine dernière vous m'avez brocardé parce que c'était incompréhensible, et on va recommencer. Donc je vous parle des catégories de stats en Jeep Elite, ok? On exclut le nombre de tirs parce que ça ne m'intéresse pas.
D'accord.
Donc là je parle bien sur l'ensemble du championnat et pas sur la dernière journée.
C'est
clair pour tout le monde.
C'est la moyenne.
Depuis le début de saison.
D'accord.
Quel est le seul joueur français d'une catégorie de stats en Jeep Elite?
Ah.
C'est effectivement Ousmane Camara qui a pris quand même 12 rebonds contre Monaco dans un match assez exceptionel.
Il a été énorme, vraiment.
Remporté d'un point par les Chalonnais.
Ouais, de bout en bout, il y a eu du suspense, ils sont revenus dans le match, ils ont gagné sur le fil avec des gros shoots de Robinson. Mais Camara a été bon pendant tout le match avec beaucoup de présence au rebond, justement.
Il fait la diff sur ce match, Fred. C'est toi qui as commencé le match sur RMC Sport. Hein.
C'est Robinson qui fait la diff parce que c'est lui qui met les gros shoots, mais c'est lui qui est présent pendant tout le match, Camara.
Et Monaco, ça va mieux, ça va pas mieux?
Ça va mieux. Ils ont bien joué le coup. Chalon était très en forme en ce moment et voilà, c'est dur à jouer, Chalon.
Le premier point est pour Stephen Brun, qui va pas s'en laisser compter ainsi ce soir. Je sens que t'as bossé comme un chien.
Non, même pas.
Qui a déclaré ce week-end, on a un des meilleurs publics de la ligue.
Laurent Villa?
Non.
Eric Girard?
Non.
Kai Meeling?
Non.
C'est en France?
C'est en France, mais il n'est pas français. C'est dans un club français et c'est de la Jeep Elite.
Filipowski?
Non.
On a le meilleur public de la ligue.
Bogdan Mitrovic?
Non. Alors je vous donne un indice.
Ouais.
C'est un match sur lequel vous étiez.
Jean-Denis Choulet.
Non.
Un match sur lequel.
Filipowski, non.
CJ Harris, excellente réponse de Stephen Brun. Est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce que c'est le public de Pau?
C'est pas le meilleur public de France, mais hier ils avaient une belle salle. Ils ont mis 6500 personnes au Palais des Sports de Pau, qui est la salle la plus grande de Jeep Elite en termes de contenance. Il y avait un beau public, il y avait une belle ambiance parce que c'était une belle affiche. Il fallait faire tomber le leader. Les Palois ont fait ce qu'il faut pour remplir cette salle. Donc, mais bon, il s'est un peu enflammé, CJ Harris. Il faut toujours flatter son propre public.
Alors, vous m'avez fait tout à l'heure un peu le débrief de ce match. Donc on va en profiter pour avancer et essayer d'évoquer tous les matchs de la Jeep Elite. Alors, tiens, on parlait de Stephen Curry, de sa réussite à 3 points tout à l'heure, réussite insolente depuis le début de saison. Eh ben, il y a mieux en France.
Peacock.
Alors pour ça, il faut prendre une équipe entière. Hein. Mais quelle équipe a fait
Nanterre.
Plus fort que Steph Curry ce week-end à 3 points? C'est Nanterre, effectivement.
14 sur 26.
Incroyable, dont, réussite, soit 54%.
Ouais. Dominique Waters, je crois qu'il fait 5 sur 5, et Jérémy Sanglin doit faire 4 sur 6, je crois. Donc à eux deux, je crois qu'ils ont été énormes.
Et grosse victoire face au Mans.
C'est l'ADN de Pascal Donadieu de prendre pas mal de shooters.
98-77, grosse perf quand même de Nanterre. Hein.
Ouais.
Un mot?
Non, ils ont
qui vous voulez.
Tu sais, quand tu prends une rafale comme ça à 3 points, c'est compliqué après de rester dans le match, surtout que les Manceaux sont dans le dur. Eux, en termes d'adresse, Antoine Anito, je crois, fait 0 sur 7. Juice Thompson, depuis le début de la saison, est catin en termes d'adresse. Et les Manceaux, ils en ont pris une bonne, mais eux, ils ont 2 matchs par semaine. Alors, Nanterre aussi, mais Nanterre, quand ils prennent feu comme ça, c'est tout simplement injouable.
Bon, on en est à 3-0, messieurs, vous le laissez pas gagner, vous me rassurez quand même.
De peu, franchement.
Ah si, parce que Pierre, après, est-ce que c'est toi qui passes la semaine en déplacement avec lui?
Franchement, c'était catastrophique la semaine dernière.
Hein?
Je sais pourquoi David
il est sorti
gagné.
De l'émission.
Parce que c'est moi qui le ramène en scout.
Il me dit ouais, c'était nul ce soir et tout, j'ai plus le temps de parler, c'était affreux quoi.
Ah oui,
il voyait la vie en noir le mec.
Bien sûr.
C'est un truc de fou. Bon, vu qu'il y a déjà un écart et c'est l'heure de faire les 5 questions, hein, questions à thème évidemment sur les meilleurs shooters de l'histoire. C'est 2 points sont en jeu. 5 questions sur Steph Curry, Reggie Miller ou Ray Allen. C'est David Cosette qui va choisir en premier.
Wow.
Pas cadeau, hein. C'est pas du vin sans coller, là, mon garçon, hein.
Alors.
C'est pas de la Jeep Elite, hein.
Bon, alors, juste pour le fun.
Reggie Miller.
Je vais faire Reggie Miller pour le truc le plus, voilà. J'ai dormi depuis, donc ça va être Qatar.
Fred, il te reste Steph Curry ou Ray Allen?
Ray Allen.
Bah, je prends Stephen.
Et donc.
C'est un cadeau qu'on fait à Stephen Brun, qui prend le plus facile en plus, voilà.
Je suis pas sûr que ce soit le plus facile, hein. C'est à peu près équilibré, mais on va démarrer par Steph, puisqu'il a un ordi sous les yeux. Comme les questions sont similaires, c'est trop facile de ne pas démarrer par celui qui a un ordi.
Bien
donc,
sûr.
Je vous rappelle le principe, 5 questions, celui qui a le plus grand nombre de bonnes réponses inscrit les 2 points. Combien de titres de champion NBA Stephen Curry? Une seule réponse
c'est
possible,
moi.
Bien entendu, et faut que ça aille vite.
3.
3, absolument. 2015, 2017.
C'est la seule réponse que je devais connaître, à mon avis.
2018. Est-ce que tu es capable de me donner le nom de son université?
Davidson.
C'est excellent. C'est excellent. Tu le savais, David?
Oui.
Ah, t'as des regrets là, non?
Ah oui, parce que je le connais, je me souviens plus de l'université de Reggie Miller.
Combien de médailles d'or avec Team USA? Olympique, pardon. Combien de médailles d'or olympiques avec Team USA?
Combien de médailles d'or olympiques avec Team USA?
Stephen Curry.
Est-ce qu'il était à Rio? Parce qu'avant, il y était pas. Est-ce qu'il était à Rio? C'est la grande question. Stephen Curry, 2016. Je vais dire une. Je pense qu'il était à Rio.
Mauvaise réponse. 0.
Ah, il était pas à Rio, c'est cochon. Ah, il était blessé à la cheville.
Ah, ça vous laisse une petite chance, mais je suis pas très confiant malgré tout.
Pas très content.
Son numéro de maillot, Stephen Curry.
Son numéro de
une
maillot.
Une seule réponse, hein. Et vite.
Ah, je l'ai pas.
Ah, il l'a pas.
Je l'ai pas.
T'aurais pas imprimé ce maillot bleu et jaune, là?
3.
3, non.
Ah, putain, je l'ai pas.
Vous l'avez les autres?
33.
C'est 30.
30, mais oui, mais putain, je suis un abruti.
Ça fait mal, hein.
Ça fait mal.
Même si tu gagnes, même si tu les mets Fanny, ça va frotter dans la tête toute la nuit, ça. Ah, le numéro de Stephen Curry, ça va pas être bon. Dans la liste des meilleurs marqueurs NBA 3 points, à quelle position est-il?
C'est-à-dire le nombre de tirs marqués?
Absolument. Nombre de paniers réussis à 3 points. Tu l'as dit tout à l'heure, en plus, il l'est.
Sixième.
Cinquième. Eh, franchement, vous avez mal choisi tous les deux parce que il a que finalement deux bonnes réponses. Vous auriez fait 3 peut-être. Allez, on enchaîne avec David Reggie Miller. C'est bon, t'as rameuté les souvenirs à la surface.
Je suis pas sûr que je fasse mieux que Steve.
Combien de titres de champion NBA?
0.
Excellente réponse. Quelle était son université?
Je ne m'en souviens plus.
Non, t'essayes pas. Non. Un truc très connu.
Ah, un truc très connu.
Ouais, essaye, tente.
Je sais ce qu'il va dire, mais c'est pas
celui-là, toi.
Non.
Pas non plus.
Non, pas UC. Je sais pas. Non.
Non,
il était pas à Duke, tout ça, North Carolina. Je sais pas, North Carolina, mais non, il y était pas.
Bon, franchement,
je vois pas.
C'était UCLA, t'as fait une sortie.
Putain, j'ai failli UCLA. Mais non, je le savais pas. Franchement, je le savais
si
pas.
Tu avais, ça, non, si tu savais
été,
pas, y a
ça aurait été vraiment un coup
un
de...
Un braquage, quoi.
Ah ouais, exactement.
Combien de médailles d'or olympiques avec Team USA?
Combien de médailles d'or olympiques avec Team USA?
Je sais pas, Stephen, non plus. Je te vois à ta tête que tu l'as pas, la réponse.
Team USA, 0.
Une.
Une, 96.
Tu vas avoir des regrets.
Ouais, parce que UCLA, je fallait le dire au hasard.
Quel était son numéro de maillot?
Aucune idée.
31.
Aucune idée. 31, exactement. Et dans la liste des meilleurs marqueurs à 3 points, à quelle place est-il? Il l'a dit tout à l'heure, Fred.
Mais je me souviens pas. 3.
Deuxième. Donc, une seule bonne réponse pour l'instant, c'est les 2 points pour un Stephen.
Mais je pense que peut-être j'aurais une bonne réponse.
Fred, avec Ray Allen, peut dépasser ce total. Combien de titres de champion NBA? Prends ton temps, réfléchis.
Non, hein.
Franchement, même moi, je le savais.
Hein?
Non. Mais deux.
C'est Boston. Boston et Miami. Et Miami.
Boston et Miami avec
Mais
le
champion.
Oui.
Alors,
les Spurs,
c'est
quasiment Spurs. Là, tu vois, t'as pas cru en toi, Fred. Son université, Ray Allen.
Non, mais j'en sais rien. Wake Forest.
Connecticut. Alors, tu peux encore les battre, hein. Combien de médailles d'or olympiques avec Team USA?
J'hésite entre 0 et 1.
Bah, hésite, hein. Mais donne une réponse à un moment, quand même.
0.
Une en 2000, Fred, t'as pas cru en toi encore une fois, quoi.
En 2000, bien joué.
2000, c'est contre
en plus, t'as joué contre lui. Oh là là, le boulet. Le mec, il a joué contre lui deux fois. Moi, j'ai jamais joué contre Reggie Miller, tu vois. Au bout d'un moment.
Quel était son numéro de maillot?
Souviens-toi quand t'as joué contre lui, tu regardais son dos.
Ouais, mais c'est pas le même. C'était numéro jusqu'à 40.
Il en a eu deux en plus, donc j'accepte les deux réponses.
24.
Ah, t'étais pas loin, c'était 20 ou 34. Dans la liste des meilleurs marqueurs de la NBA 3
points.
Il est numéro 1, ça te fait quand même une bonne réponse, mais les deux points vont à Stephen.
Ouais, c'est pas mérité, donc, j'étais mauvais en plus.
Donc là, il y a 5-0.
Bon, là, tous les trois étaient mauvais, ouais, donc voilà, c'est normal que tu gardes l'avantage.
Il y a 5-0 et 3 questions, hein. Donc là, c'est gagné pour Stephen. Sauf si tu acceptes qu'on fasse un challenge, chaque point vaut deux,
non.
Chaque question vaut deux points.
Non.
Alors, le seul objectif désormais sera de pas être Fanny pour vous, hein.
C'est ça,
pour
David, de pas être dernier.
Alors, qui a déclaré?
On a fait une finale des losers entre Fred et moi, comme ça.
Ce week-end, j'ai essayé d'être agressif.
Mardi Collins?
Ouais.
Ce week-end, j'ai essayé d'être agressif.
J'ai essayé d'être agressif. Rudy Gobert?
Non.
Elio Kobo,
très bonne réponse. Donc Elio Kobo, qui saisit sa chance. Alors il est dans une franchise qui est mauvaise, on peut le dire, à Phoenix.
Il n'y a pas de joueur.
Jusqu'ici, il avait très peu de temps de jeu. Il a fait plusieurs fois zéro, hein, BNP, zéro minute. Et puis là, il bénéficie de la blessure du meneur Isaiah Canaan.
Et Booker.
Pour gratter du temps de jeu. Et plus que ça, parce qu'il a eu 30 minutes contre KC. 18 points, 7 passes, 5 rebonds. C'est quand même pas n'importe quoi pour un rookie européen, quand même.
C'est importantissime parce qu'on sait qu'en NBA, quand le train y passe,
c'est clair.
T'as intérêt à la prendre et de voir qu'il est, alors c'est même pas qu'il fait son job en mettant 8-10 points ou quoi, mais de faire un vrai beau score offensif, c'est formidable. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont tout simplement le regarder différemment.
Et Canaan risque de passer en deux, non?
Je suis pas sûr.
Non?
Ah, je suis pas sûr.
Non, mais déjà, Canaan,
en tout cas, c'est beau.
Ils vont quand même plus lui faire confiance.
On verra. Justement, je vais regarder ça. Je suis pas sûr.
Dans une franchise comme ça?
Ouais, mais.
Mais justement, leur intérêt.
Même si on sait que Booker va.
Des jeunes, non, dans cette franchise, justement. Il n'y a pas grand chose d'autre à gagner.
Ouais, mais Devin Booker est la superstar. Il y a Canaan. Il compte dessus. On verra.
C'est pas grave. Et ben, les autres équipes, alors, ouais, au moins. Ils vont le repérer et il y aura peut-être un jour où s'il change d'équipe, il aura des références.
Est-ce que vous étiez étonné de son très faible temps de jeu jusqu'ici?
Moi, j'étais surpris de voir trois matchs où il est en DNP, en did not play, 0 minute. Je trouvais ça curieux. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il soit starter et qu'il joue 30 minutes, mais au moins des bouts de match, des 8-10 minutes. Et c'est pour ça que je reviens sur l'inquiétude quand les deux vont revenir.
En NBA, c'était bon quand on te donne l'opportunité. Parfois, ça peut engendrer plus de temps de jeu.
Je trouve ça quand même assez impressionnant parce que on est encore loin de la première saison de Tony Parker qui avait saisi sa chance, qui est plus jamais sorti de l'équipe des Spurs. Mais quand même, je pense que c'est quand même le bout du banc de Phoenix au début de la saison. Eli Okobo, la preuve avec ses trois matchs sans la moindre seconde de jeu et être à cette performance-là au bout de quoi de
une semaine, quoi,
cinq matchs, ouais. C'est quand même assez fort.
Moi, j'étais surpris déçu
déjà,
parce que
mentalement. Il est là, quoi.
Mais ça, on le savait qu'il avait du caractère et que c'était pas le genre de mec.
Après, t'arrives en NBA, tu sais pas, hein.
Il a la mentalité pour. Il a la mentalité totalement différente de Frank Ntilikina et Okobo, qui est plus un scoreur dans l'âme que l'était.
Il a mieux
adapté. Plus adapté à la NBA.
Voilà. Moi, j'avais lu que Phoenix, même s'il avait drafté début de deuxième tour, il comptait sur lui comme s'il avait été drafté au premier tour. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas juste on le draft, on verra bien ce qui se passe, etc. Déjà, mais qu'il comptait vraiment sur lui. Donc,
il a filé un contrat de rookie de premier tour.
Ah oui, donc.
Bon, les gars, vous êtes à 6-0. 6-0, toujours pour Stephen, qui a déclaré « Je ne veux plus qu'on dise que je suis un jeune potentiel ».
Hassan Hendoy de Chalon-sur-Saône.
Hassan Hendoy de Chalon-sur-Saône, absolument. Stephen Brun, t'es bien là, hein, t'es à 7. T'es à 7-0. Alors, est-ce qu'on dit plus donc que c'est un jeune potentiel, Hassan Hendoy?
Ouais, quand t'as fait une saison déjà en Pro B entière et que tu reviens à Chalon, moi je suis d'accord avec lui. Je trouve que c'est la bonne mentalité à avoir.
La mentalité, elle est bonne, mais réellement, on pense toujours ça un petit peu parce que la Pro B et la Pro A et la JP Elite, pardon, il y a un vrai gap entre les deux. Tant qu'il n'y aura pas prouvé en Pro A, ça sera et qu'il sera encore jeune, on considérera que c'est encore.
À partir de quel âge on est plus jeune?
Toi, t'es plus jeune, par exemple.
Voilà, par exemple.
Steve.
Non, mais je sais pas, parce que même Jaïté, on défend
26,
les jeunes encore.
Donc, même Jaïté, il est jeune pour moi encore.
Ouais. D'accord. Hein,
26,
il a 22,
non.
23.
Même Jaïté, non.
Non.
Il a 24, 25, non.
Ouais, je sais pas. Allez, il vous reste une dernière chance, David et Fred, qui a déclaré, plus que toute autre chose, j'ai cherché Rudy dès que je pouvais.
Rudy Rubio!
Je l'accorde à... David Cosette.
Je sais ce qu'il passe par le grand chelem. Ah si, je te dis avant.
Je pense qu'il est parti avant, ouais.
Ah oui, vraiment. Ah,
si, jamais de la vie.
Mais oui, bien sûr que.
Ah,
oui.
Ça fait 7-1, c'est cadeau.
Mais c'est incroyable.
Non, mais je pense
la mauvaise foi, Steve.
Je fais pas ça pour t'attraper.
Pas grave.
En mon âme et conscience, je pense qu'il a démarré en premier. Parlons quand même du début de saison de Utah, qui est peut-être pas la meilleure franchise de l'Ouest, mais qui est quand même assez solide, avec un Rudy Gobert en constant progrès, en tout cas en termes statistiques, il a franchi un cap. Hein. Et ça, c'est important aussi. Hein.
Il a franchi un cap en termes de...
Offensivement, il met plus de points. Hein,
il met plus de points, il a 17-5, c'était son but.
Ça, c'est important pour lui, parce que défensivement, il est déjà...
Oui, ce qui lui permet de mettre plus de points, c'est son adresse au lancer franc, il va plus souvent sur la ligne, il a 75% sur la ligne des lancers, ça compte. Et puis, son association avec Rubio et Donovan Mitchell, où il le trouve en permanence sur des passes lobées. Pour l'instant, le Jazz est, enfin, je vais pas dire une surprise,
on s'y attendait à ce qu'il soit là.
Mais il confirme.
Est-ce qu'ils peuvent aller carrément, chercher Golden State ou pas, en progressant dans la saison?
Bah, ils ont joué contre les Warriors en début de saison, ils perdent sur une claquette au buzzer du Suédois Jerick Bo, qui était un ancien joueur du Jazz. Sur 4 matchs, pour moi, c'est impossible de gagner 4 fois contre les Warriors. Tout simplement, tu peux les battre une fois en saison régulière, 2 fois à la rigueur, mais 4 fois, non.
Allez, dans un instant, on part à la rencontre de Bria Hartley, l'américaine qui a choisi le maillot bleu. D'abord, les matchs en direct. Bourg-en-Bresse-Levallois, c'est reparti. Et il y a plus 4 pour les locaux, donc plus 4 dans le troisième quart-temps. On suit également la Ligue 2 avec Clermont-Brest, Julien Théier.
48e minute à Clermont, toujours 2-1 pour le stade brestois ici à Clermont. Début signé Jesse P, 15e, Mathias Autré, 20e. Le but clermontois juste avant la mi-temps dans les arrêts de jeu de la première période, signé Florian Haye. On a frôlé à l'instant le 3e but brestois avec une frappe de Fossurier sur un centre d'Autré qui est passé juste à côté. Et les Clermontois qui s'étaient revenus, le centre Autré et la bonne parade du gardien brestois Gauthier Lossorner. 48e, toujours 2-1 pour Brest ici à Clermont.
Et on arrive à la mi-temps en première ligue entre Tottenham et Manchester City, Arthur Perrault.
C'est même la mi-temps, Pierre, à l'instant, monsieur Kevin Frenn qui vient de renvoyer les deux équipes au vestiaire. Manchester City qui mène 1-0 face à Tottenham grâce à un but à la 5e minute de Riyad Mahrez.
Ah, il y a un bon DJ à Tottenham, hein, en tout cas. Et puis Lazio Inter, c'est reparti en deuxième période, 2-0 toujours pour l'Inter Milan dans le locker room de l'équipe de France féminine de basket. Tout de suite, on va à la rencontre de Bria Hartley sur RMC.
RMC, 21h-22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Allez, Buzzer Time, c'est reparti. Tout de suite, des infos et une interview exclusive sur l'équipe de France de basket féminin.
RMC, Buzzer Time, Buzzer Time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Mais moi, je préfère perdre en se battant.
Locker Room.
On est avec Cyril Méjean donc pour parler de bonsoir, Bria monsieur. Hartley. Je me presse parce que je vois le chrono qui file. Bria Hartley, donc c'est cette américaine qui a choisi de porter le maillot bleu. Et Nicolas Bayou l'a rencontré en exclusivité pour RMC Sport.
Exactement, il a eu la chance de la rencontrer à Istanbul la semaine dernière. Et première question qu'on lui a posée, alors l'interview on l'a fait en anglais ou en français?
Mostly English.
Bien sûr. Voilà, raté, hein. Elle ne parle pas français ou très peu. Et la première question qu'on lui a posée après cette question sur l'anglais ou le français, c'est décris-toi, qui es-tu, Bria, s'il te plaît?
Je m'appelle Bria Hartley. I'm from North Babylon, New York.
Je viens de North Babylon à New York. J'ai commencé le basket très jeune, puis je suis allée à la fac de Connecticut. J'ai été draftée, je suis devenue professionnelle. Maintenant, je suis au Fenerbahçe. Ma grand-mère est française. Elle s'est installée aux États-Unis à 25 ans. Quand les gens me demandent de quelles origines je suis, je réponds toujours que je suis française. Elle parle français et elle essaye de m'apprendre le français.
Pourquoi Bria Hartley souhaite en équipe de France? Voici sa réponse.
Yeah, I think I really make her proud. Something I've been talking about for years now.
Je veux rendre ma famille fière. C'est quelque chose à laquelle je pense depuis de nombreuses années. Depuis que j'ai quitté la fac, je souhaite jouer avec l'équipe nationale française. Donc c'est excitant de finalement pouvoir le faire et que ma famille voit ça. Ça sera spécial de jouer pour la France. Ça fait partie de moi. Je suis née avec du sang français. Ça fait partie de ma culture et je suis très excitée à l'idée d'aller en France et de découvrir davantage la culture. J'ai essayé étant petite, mais c'est très dur en ayant si peu de personnes françaises autour de moi. C'est donc une bonne chose pour moi d'aller en France et de pouvoir en apprendre beaucoup plus sur le pays.
Malgré tout ça, est-ce qu'elle se sent française?
Techniquement, je suis née française, ça fait partie de moi. Je veux que les gens puissent m'accepter et dire que je suis française. Je veux en apprendre plus concernant la culture, la langue, en savoir plus sur ce que je sais déjà.
Et d'un point de vue sportif, quels sont ses objectifs avec l'équipe de France?
J'espère juste que je pourrai être appelée. Je veux juste aider l'équipe à remporter des succès. Je veux jouer au plus haut niveau avec l'équipe de France. Je suis beaucoup de joueuses de l'équipe. Elles sont très talentueuses. Et j'espère que je pourrai les aider à être une équipe meilleure.
Et puis la question, la vraie question, est-ce qu'elle va apprendre le français?
J'ai toujours voulu apprendre. Quand vous parlez anglais, c'est difficile d'apprendre une autre langue. Mais je continue de travailler dur avec mon professeur pour apprendre de plus en plus le français.
Bria Hartley, donc, qui défendra les couleurs de la France. Un mot juste de David. T'es convaincu ou pas par l'interview et la sincérité de Bria Hartley ou tu trouves ça bizarre? Moi, je trouve ça bizarre, je vous avoue, franchement.
Ah, bien,
Elle parle bien anglais, en fait.
Ouais, ok, c'est une chose.
Bof.
Mais... bof, bof. Mmh. Bon, et ben, il faudra maintenant gagner les cœurs sur le terrain, sur le parquet, plus exactement, avec l'équipe de France féminine. Merci, messieurs, à la semaine prochaine, 21h, 22h, pour Buzzer Time. Levallois mené de 4 points à Bourg-en-Bresse. Brest qui mène toujours 2-1 sur la pelouse de Clermont City, 1-0 à Tottenham, c'est la mi-temps. L'Inter mène 2-0 sur le terrain de la Lazio. Ces matchs-là, vous allez continuer de les suivre dans l'after avec Nico Villas.
Eh ouais, ça va ou quoi?
Très bien, nous, écoute.
Et ben, nous, on vous attend dans quelques instants avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo pour l'after. Les avis tranchés de Pierre et de Daniel qui arrivent à J+1 du match du choc entre Marseille et le Paris Saint-Germain. On aura également l'avis des drôles de dames en France et d'Europe. Simone, il sera là. T'as tué toute la soirée. J'ai beaucoup aimé. Bravo pour la qualité de tes interventions et ton accent italien. Allez, à tout de suite pour l'after.
RMC Football Show, l'after foot.